aujourd'hui la masterclass de Philippe Catherine avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons donc à présent la masterclass de Philippe Catherine en public dans ce studio 105 de la Maison de la Radio. Le principe de la collection est le suivant, je le rappelle tout de même, savoir comment un artiste travaille très concrètement pour essayer d'approcher les conditions d'exercice de son art, le processus de création. Peut-être avant de véritablement débuter, Philippe Catherine, je me permets de rappeler quelques éléments concernant votre parcours, ou peut-être même commencer par dire que vous auriez pu être basketteur, c'est vrai ?
J'ai pratiqué de 10 à 20 ans, tout simplement, le basketball, puis brutalement, j'ai cessé cette activité.
Vous étiez doué ?
Je me croyais doué, et puis on m'a dit que c'était peut-être pas la peine d'insister. J'étais lent.
Alors, vous n'êtes pas basketteur, Philippe Catherine, mais vous êtes auteur, compositeur, interprète, comédien, réalisateur, dessinateur, écrivain. C'est une heure qui va être un peu courte hein, pour essayer d'évoquer ces différents moyens de création. Mais première question peut-être en incise, est-ce qu'il y a un mode d'expression plus important qu'un autre pour vous ? Est-ce que ça dépend des moments ?
Ça dépend des moments. Dans ma vie, j'ai commencé plutôt à chanter, vers l'âge de... comme les enfants, quoi. Ils commencent à chanter vers un an, hein. Là, ce sont des cris. Mais c'est du chant, hein, tout de même. Vous aussi, vous avez commencé, Monsieur Laporte, très jeune, à chanter. Et ensuite, c'est rapidement, dès qu'on sait tenir un crayon, le dessin.
Vous avez les traces de tout cela, des preuves ?
Des preuves.
Des enregistrements, des dessins d'enfants ?
Non, par contre, mes parents n'ont rien gardé. Et je leur en remercie beaucoup. Ce qui me permet de réévaluer à loisir.
Des poèmes ?
Poèmes, c'est toujours plus tard, quand on apprend à écrire.
Et la comédie ?
Bon, la comédie, c'est un peu plus récent pour moi. Ça a été comme un accident. C'est Thierry Jousse qui m'avait donné un rôle pour un court-métrage. Puis après, on m'a redemandé comme ça. Alors, j'ai du mal à dire non. C'est ma personnalité. Donc, mais au bout du compte, ça finit par me plaire. Sauf que j'ai quand même un problème avec la comédie. C'est que je suis de cette sorte de comédien qui se laisse complètement envahir par le personnage. Alors c'est parfois dommageable parce que ça m'est arrivé d'interpréter un serial killer avec Eric et Ramsey par exemple. Et dans ma vie privée, je faisais des travaux à la maison et pour la première fois de ma vie, je voulais en finir, après une petite discussion qui a mal tourné, je voulais en finir avec le mec des travaux. Je dis, viens, on va régler ça, je te finis. Je te massacre. Je dis ça devant mes enfants. Alors, là, je me suis dit, écoute, Philippe, il y a un problème avec la comédie, puisque à chaque fois, c'est la même chose. Récemment, j'ai interprété un type un peu pervers, embrouilleur, pour un film de Mathieu Sapin. Et bien dans la vie, je me suis retrouvé avec pas mal de dossiers assez chauds, des embrouilles que je me suis créé comme ça, alors que c'est pas du tout mon style.
Bon, là, pour l'instant, il y a une embrouille de micro, alors on va le changer. Voilà, ça sera désembrouillé.
Ok. Le noir et le rouge. Ça va poser problème, hein, à long terme.
Ouais, hein, il y a une embrouille, là.
Embrouille.
Je vais donner quelques...
Bien vaut les micros à fil, quand même.
Quelques dates, peut-être. Premier album en 1991, donc plus d'un quart de siècle de carrière. 2000, premier pas devant la caméra, donc pour ce court-métrage de Thierry Jousse.
Ouais.
2003, première réalisation de court-métrage. 2005, première réalisation de long-métrage. Ouais. 2005, c'est aussi la sortie du 7e album, Robot après tout, avec ce titre Luxor, j'adore, qui va vous faire connaître quand même une notoriété immense. 2007, Doubler votre mémoire, un ouvrage graphique chez De Noël. 2012, une exposition de vos œuvres à la Galerie des Galeries. 2016, c'est le dernier album en date, au moment où nous enregistrons cette masterclass pour France Culture, l'album s'appelle Le Film. Et le dernier livre en date, Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l'amour. Les derniers films comme comédien, Un beau soleil intérieur de Claire Denis, Le petit Spirou de Nicolas Barry, Le grand bain de Gilles Lelouch. Dans les masterclass de France Culture, Philippe Catherine, on demande souvent à nos invités qu'est-ce qui les a conduits à choisir une forme d'art plutôt qu'une autre. Dans votre cas, il faudrait plutôt vous demander qu'est-ce qui vous a amené à ne pas choisir.
Bon, c'est là, oui, c'est les rencontres. Je me suis aperçu que, en fait, c'est vachement bien aussi de changer de paysage. Le voyage, c'est un voyage, au fond. Moi, je suis un touriste. Hein, je suis un touriste dans la musique, dans la comédie, dans les dessins, tout ça. Je suis un touriste. Hein. Je suis de passage.
Mais touriste ou résident temporaire, au risque de l'ennui de rester dans le même pays, bah, vous résidez tantôt en comédie, tantôt en chanson.
Bon, moi, je vais là où on m'appelle. Hein, donc, c'est simple.
Vous venez ici quand on vous appelle
pour
le masterclass.
On m'a appelé, alors je suis ici. La porte était ouverte. Et donc, non mais par exemple, quand j'ai loué des appartements, j'ai toujours pris un meublé. Les meublés que j'ai jamais choisi, des meubles, par exemple, ça m'intéresse pas. Je préfère louer des meublés qu'on choisisse mon environnement à ma place. Et c'est ainsi que je peux trouver une forme de liberté.
On vous appelle pas pour faire des disques et des chansons, ça c'est quand on vous appelle pas que vous faites des chansons.
Attention, pour les disques et les chansons, j'ai la chance d'avoir signé un contrat. C'est toujours très excitant de se dire, quand le premier contrat, je me souviens bien, vous signez, Monsieur Catherine, pour 3 disques. Ah, c'était merveilleux. Enfin, ça l'est toujours. J'ai signé un autre contrat récemment. Pour 2 disques. Ah, 2 disques. C'est excitant d'avoir comme ça des rendez-vous obligatoires. Il faut rendre un travail. Ça me plaît beaucoup, ça, d'être obligé.
Et si on ne vous obligeait pas ou si on ne vous appelait pas, vous ne feriez rien?
J'ai préféré ne jamais me poser cette question.
L'oisiveté, ça fait pas partie de votre vie?
Je dois dire que plus du tout. Non.
Ça vous ferait peur de ne pas avoir quelqu'un qui vous appelle, de ne pas avoir de contrat signé pour rendre des disques?
Non, mais aujourd'hui, j'ai pris ce pli de... C'est-à-dire que quand je sens que j'en ai plein la besace, il faut que je me libère de ce poids. C'est devenu ça, un peu. Donc, l'oisiveté, dans ces cas-là. Mais quand j'étais gamin, j'étais comme ça. Je m'ennuyais jamais.
Et est-ce que si on vous dit que vous êtes, non pas touriste, mais surdoué, c'est-à-dire doué dans plusieurs domaines, est-ce que vous l'envisagez comme ça, vous, ou est-ce que ça vous paraît une vision extérieure qui...
Une vision extérieure qui ne concerne que vous.
Hein. Ouais. Quelques autres personnes, je crois.
Ah ben
peut-être. Certaines sont dans ce studio de la radio, vous savez.
Ils sont là.
Ouais.
Ils sont tous là.
Tous. Il y en a beaucoup plus.
Non, mais je ne me pose jamais ce genre de questions, évidemment. Non, mais c'est simple que soit je me sens mal à l'aise, soit à l'aise. Hein. Ça se limite à ça, hein, ma réflexion là-dessus. Mais si je me sens à l'aise à faire un dessin, c'est-à-dire j'ai une urgence à faire un dessin, je sens bien quand quelque chose se passe. C'est tout ce que je peux dire. L'autre jour, j'ai fait en musique, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de films. Récemment, en tant que comédien, comme vous l'avez dit, et j'ai eu ce problème donc d'être envahi par ces personnages. Je me suis dit, je vais peut-être lever le pied. Et justement, j'avais en moi le besoin de refaire des chansons. Parce que justement, comme je disais, j'étais plein à craquer, quoi. Par exemple, j'ai fait un stage de MAO, musique assistée par ordinateur. Ça se disait beaucoup en 91. Je suis un des derniers à utiliser cette expression. Et donc, j'ai fait un stage à MAO. Donc, pour la première fois, je fais de la musique sur ordinateur. Alors là, j'ai été appelé par la machine, là, quelque part. Et me voilà maintenant à manipuler l'ordinateur et enregistrer directement dessus. C'est une révolution pour moi. C'est comme là justement, c'est un nouveau paysage total. Donc, j'ai commencé avec des difficultés techniques, évidemment, et en essayant d'enregistrer les morceaux qui me venaient là à ce moment-là. Profonde déception. Je me sentais pas concerné par ce que je faisais. Problème. C'était la semaine dernière. Vraiment, je me disais, je vais peut-être passer à autre chose, là. Et puis, j'ai regardé un match de football, je suis très amateur de foot. Et ça se passait à Anderlecht, PSG. Et vous savez peut-être que le public belge chante différemment du reste que les autres publics européens. Ils ont des chants assez sexy, un peu enfantin, mais groovy. Donc ça donne des choses comme ça. Je commençais à improviser sur le match. Enfin, bon, il y avait les commentaires, mais enfin bon. Donc je commençais à improviser avec les supporters, finalement, que j'entendais à la télévision. Et quelque chose se passait. Alors, avec mon ordinateur, j'ai enregistré le chant des supporters, que j'ai bouclé, puisqu'on peut faire des boucles sur ordinateur. Et tout d'un coup, les doutes que j'avais quasiment d'arrêter la musique une heure avant ont été complètement balayés par cette trouvaille. J'ai fait de la musique jusqu'à 4 heures du matin avec ces supporters, ces chants de supporters belges que j'avais enregistrés. Et là, c'est des moments merveilleux. J'ai pas osé réécouter depuis. Hein, parce que...
Faut se méfier des épiphanies.
Voilà, exactement. Il faut s'en méfier beaucoup. Mais enfin, quand ça arrive, il faut en profiter et pleinement. Et là, je dansais dans la cuisine, j'étais dans un état extraordinaire d'exaltation. J'avais l'impression d'être déjà dans l'inconnu, ce qui est quand même ce que je recherche par-dessus tout. Touriste que je suis recherche ça, l'inconnu, le danger, et puis l'exaltation par-dessus tout. Et quand ça arrive, alors c'est très précieux. Enfin, composer des chansons, par exemple, c'est vraiment une aventure qui est à chaque fois extraordinaire. Ça peut ressembler à une guerre avec soi-même ou contre le monde, des fois, ou alors parfois à un coït aussi.
Vous parlez de musique assistée par ordinateur, Philippe Catherine.
La MAO, oui.
La MAO. Et la question qu'on pose aussi régulièrement dans ces masterclass de France Culture, c'est de savoir si l'artiste poursuit un même chemin, si au contraire une œuvre est en réaction à la précédente. Le précédent album, c'est le film, piano-voix, minimaliste, vraiment des petites pièces de Satie à Philippe Catherine. Et là, vous passez à l'ordinateur. Oui. Est-ce que c'est une réponse aussi à l'album précédent?
C'est-à-dire que je pense que, enfin, en tout cas, c'est la façon dont je fonctionne. Il y a une légère dépression après un disque. C'est comme quand on a fait l'amour, par moment, il y a une petite dépression. On connaît ça beaucoup, les hommes. Et il y a toujours une dépression après ça. Et l'objet que vous avez utilisé, en l'occurrence le piano pour ce film, vous procure, il faut bien le dire, je suis obligé de l'avouer, un certain dégoût. Donc, c'est pour ça que naturellement, je passe à un autre outil pour justement me retrouver sur une autre planète, quasiment.
Parler de l'écriture des chansons, alors évidemment, on s'interroge comment une chanson naît, Philippe Catherine. Est-ce que, alors là, vous avez raconté les chants de supporters d'Anderlecht, certes, mais est-ce qu'il y a un carnet de notes? Est-ce qu'il y a un dictaphone où vous chantez des mélodies? Est-ce que ça commence par le texte, par la musique? Est-ce que ça dépend des fois?
En général, j'ai remarqué que quand je fais des chansons, souvent c'est les deux qui viennent en même temps. Je peux pas, sinon ça m'intéresse pas tellement. Et puis après, ça c'est des moments. Là, je sens que, comme je vous l'ai dit, je suis gros de quelque chose qu'il faut que je sorte, hein, et lourd. Je me sens lourd, donc il faut que ça sorte. Là, je suis en plein dans ce truc-là en ce moment, et donc ce qui m'empêche de dormir, je suis comme un fauve qui attend sa proie sur laquelle il va se jeter au bon moment, hein, c'est ça pour moi. Donc il faut que tout soit prêt, et j'ai faim.
Mais du coup, est-ce qu'il y a une méthode de travail? Est-ce qu'il y a des horaires, des lieux?
Non, c'est juste une période. À chaque fois, j'ai remarqué que ça durait 2 ou 3 mois où je suis dans cet état.
L'état de gestation? Avant que ça sorte, ce qu'il y a à sortir.
Ah non, pas de gestation.
Ou ça sort pendant 2-3 mois.
Pendant 2-3 mois, c'est une espèce de.
une espèce de.
Comment dire ça ressemble à.
De lente délivrance.
Oui, c'est ça.
Ce sont les mots que vous cherchez.
C'est exactement ce que je voulais dire.
Et là, c'est des moments qui sont vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'on se rapproche quelque part de Dieu, hein, je vais le dire très modestement. Hein. Et donc, il vous donne cette illusion incroyable de construire un monde qui s'écroule après très vite. Hein. Une fois que c'est fini, vous avez encore un état de dépression. Vous recevez une bonne claque dans la gueule.
Mais une fois que c'est fini, alors quand même, restons un moment là sur la chanson. Comment est-ce que vous trouvez la forme juste d'une chanson, sa durée, ses arrangements?
Ah ben après, j'ai ma chanson. Ça dépend parce que chaque disque a un petit peu sa méthode qui s'invente au fur et à mesure. Si je prends le dernier disque, le film dont vous avez parlé, je fais ça à la maison avec le piano de la maison, un piano droit. Sur lequel j'avais jamais joué, enfin bon, voilà, quelque chose est venu comme ça, j'avais mes chansons, et puis après, je me dis avec qui je vais les enregistrer, ces chansons-là. Et puis alors, je fréquentais beaucoup un certain Julien Bert, qui en a fait des livres pour enfants, notamment, et je me suis dit que c'était avec lui qu'il fallait l'enregistrer, chez lui, parce que c'est quelqu'un, je me suis dit, qui allait pouvoir me retenir dans mes élans, de trop en faire, parfois. Et c'était un disque qui méritait une certaine, une épure, une simplicité. Et c'est lui, il me fallait quelqu'un qui me domine, ça c'est important aussi. Parce qu'il y a toujours, il faut pas se leurrer, un dominant, un dominé. Donc il fallait un dominant fort. Et Julien Bert était la bonne personne pour ça. Il a une sagesse du vieux lion.
À chaque disque ça m'étonne, mais...
Et un casting forcément différent à chaque disque. Ouais.
Bon, c'est vrai que c'est intéressant toujours dans ces masterclass de France Culture de parler d'une œuvre particulièrement connue. Parlons quand même de Louxor, j'adore, Philippe Catherine. Cette chanson, vous vous souvenez comment elle est née précisément?
Oui, un dimanche soir.
Quelle heure?
Ah, il était. J'ai fait mon premier jet vers 21. Je suis très rapide pour écrire des chansons. Faut pas que ça traîne, hein, pour moi, sinon.
Très rapide.
On peut pas faire l'amour pendant 24 heures, c'est pas possible. Donc, il faut que ça aille vite. Et donc, ça commençait à 21h. Et puis, je l'ai fini, il était minuit. Donc, je voulais regarder un film à la télé, puis je me suis dit non, tiens, je vais finir cette chanson. Ça me plaisait parce que c'est ce qui me plaisait dans cette chanson, c'est qu'il y avait la victoire, c'est-à-dire qu'on passe d'un octave à un autre. Là, je suis peut-être plus technique, mais enfin... Donc ça, il y avait quand on passe d'un octave à un autre, c'est souvent de la victoire, il s'agit de la victoire. Disons que c'est un sentiment que j'avais peu exploré... avant cette chanson.
Alors là, vous l'avez vraiment très très bien exploré avec cette chanson. Comment est-ce que vous comprenez le succès qu'elle a eu?
Je pense que c'est amusant, peut-être. J'ai du mal à interpréter tout ça, mais enfin, puisque vous me posez la question, je dirais que c'est une chanson qui vous travaille sur la frustration. Je coupe le son, et là il y a attente, frustration, colère, ressentiment du public, hein. On vous enlève quelque chose, et là c'est je crois que c'est ça qui, c'est le côté masochiste, hein, des gens, moi j'y suis pour rien. On vous enlève quelque chose, ça les rend fous.
Oui, mais...
Et puis alors d'autant plus que dans cette chanson, si vous vous souvenez, il y a... aussi un côté très cruel, à part cette frustration qui est plutôt de l'ordre du jeu, mais il y a aussi une cruauté, c'est-à-dire que le DJ qui fait ça, c'est-à-dire moi en l'occurrence, qui coupe le son et qui remet le son, est tout de même traîné dans la boue, par la foule, qui le met à l'envers, c'est-à-dire que c'est un martyr. Je me souviens plus des paroles, mais enfin, c'est affreux.
Vous n'avez plus des paroles?
Non, je m'en souviens, là, je pourrais pas le redire, mais je crois qu'il est les pieds à l'envers. Les gens m'entourent. Ils me prennent pas. Enfin, c'est. Oui, c'est ça, le type est. Il est pendu les pieds en haut. C'est quand même par la foule. Et je pense que c'est pour. Ça peut expliquer un certain succès auprès du public, qui est, on le sait, d'une cruauté sans nom.
Cette chanson et cet album, ils ont donné naissance aussi à un spectacle en collaboration avec Mathilde Monnier, 2008 Valley. J'ai eu la chance de voir, notamment dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, ce qui n'est pas tout à fait rien. Vous sentiez à vous à quelle place, Philippe Catherine, dans ce spectacle qui était aussi une réinterprétation de votre travail, de tout l'album Robot après tout.
Oui, mais c'est un disque que donc ce disque-là que j'avais commencé avec l'idée parce que j'avais vu les spectacles de Mathilde Monnier et j'avais commencé ce disque avec l'idée d'en faire un spectacle. Donc cette chanson notamment dont on parlait Louxor, c'était très lié à l'individu et la foule et le groupe. En l'occurrence, tout ce disque est un petit peu autour de cette problématique, si on peut appeler ça une problématique, enfin si quand même. Et donc j'avais, en faisant ces chansons, je pensais à Mathilde, en fait, à ce que j'avais vu de ces spectacles qui m'avaient bouleversé, hein, parce que il y a l'absurdité. Je pourrais pas expliquer ce que c'est d'ailleurs les spectacles de Mathilde. Enfin, il y a une cruauté aussi, voilà, qui me concerne tout de suite.
Mais aussi une douceur, mais aussi un regard envers l'autre. Il y a beaucoup de choses mêlées dans son travail, mais peut-être aussi comme dans votre musique ou dans votre création, quelque chose qui connecte entre vous à ce niveau-là.
Oui, certainement. Mais on n'en a jamais parlé parce que bon, ça serait impudique de le faire entre nous, entre Mathilde et moi. Mais oui, il y a certainement un cousinage hein, très très fort.
Vous avez vécu comment, vous, d'être ce corps sur scène, chantant, mais pas seulement, dansant, les autres danseurs chantant aussi. Par parenthèse, d'ailleurs, vous parlez de ce passage à l'Octave, ce spectacle, il permettait aussi de constater à quel point vous avez une maîtrise du chant. Vous faites, on pourrait dire, semblant de mal chanter, Philippe Catherine, mais vous êtes virtuose aussi.
Oh, je dirais pas ça.
Enfin, si le spectacle montrait que vous jouiez avec de votre voix comme d'un instrument, il y avait ce côté du pitch.
Oui.
Vous jouiez sur les notes.
Oui, parce que Louxor, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était quand même une chanson qu'on faisait, qu'on répétait pendant 15 minutes au début de ce spectacle. Ça s'appelait 2008 Valley avec Mathilde Monnier. Et 15 minutes, la même chanson, les gens devenaient fous. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est mener à bout et créer peut-être éventuellement du malaise, et ce qui donne du mouvement et de l'énergie. Donc c'était 15 minutes de cette chanson, ça rendait dingue, ça rendait vraiment dingue. Et après, c'est bien beau que ça rende dingue, que ça fasse violence. Mais c'est souvent après, ça c'est mon côté catholique, d'une bonne récompense après. Vous avez une bonne récompense.
C'est le Vendéen qui parle.
C'est le Vendéen qui parle.
Du coup, je me suis interrompu dans la question. Philippe,
oui,
Catherine, c'est moi. D'être un corps dansant au milieu de danseurs, ça a changé quoi dans votre. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous en tant que comédien, en tant qu'ensuite interprète, musicien sur scène?
Ah oui, complètement, parce que c'était bon, il y avait Mathilde, il y avait aussi on était six danseurs, donc tout le monde se mettait un peu en danger parce que les danseurs danseuses devaient chanter, moi je devais danser, donc on était comme j'ai dit un peu des touristes là, on était un peu fébrile, donc il y avait quelque chose de fort qui est donc lié aussi finalement au récit du spectacle. C'est-à-dire, on souffre, mais pour trouver éventuellement de l'harmonie. Donc, c'était un peu ça au début. Ça faisait souffrir. En plus, c'était à Montpellier. C'était l'hiver qu'on répétait dans un couvent rempli de fantômes. Et pas tous, parce que je leur ai parlé pas mal aux fantômes. Ils n'étaient pas tous bien intentionnés. Et donc,
vous avez négocié avec les fantômes ?
Il a fallu négocier. Ils étaient sur scène aussi. Hein. Donc, bah oui, il y a une part d'invisible très 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 forte. Et aussi dans ça, c'est aussi l'art de Mathilde Monnier. Beaucoup, il y a beaucoup d'invisibles. Enfin bref, et le fait d'avoir un peu souffert comme ça, moi personnellement, je sais pas pour les autres danseurs, mais enfin, ça m'a complètement libéré. Je suis passé à autre chose. En fait, quelque part, je me suis oublié. Donc, je me suis oublié. Aussi, Mathilde m'a dit aussi un jour, écoute, ne danse que pour toi. Ne danse pas pour les autres, tu ne danses que pour toi. Alors, c'est une phrase brève, mais qui me poursuit encore. Qui me poursuit encore. Et je crois que c'est la condition de la libération, de ne penser qu'à soi, au fond. C'est terrible à dire, mais enfin, dans la création, je veux dire.
Mais ça s'applique aux autres chants ? C'est-à-dire ne chante que pour toi, ne dessine que pour toi ?
Oui, j'ai appliqué ça pour tout. Ça a bien simplifié ma vie, remarquez. Donc, je fais ça pour moi, ouais, avant.
Alors du coup, c'est aussi une autre question récurrente de ces masterclass, Philippe Catherine, comment est-ce que vous pensez au public ? Votre public, ça fait un peu prétentieux, mais comment est-ce que vous pensez au public quand vous écrivez une chanson, quand vous êtes en studio, quand vous tournez un film ? C'est quoi l'image que vous avez des gens ? Est-ce que vous y pensez ou alors vraiment
J'y pense jamais. Hein.
Ouais.
Ah non, j'y pense jamais. C'est comme ça. Bon, j'y pense pas. J'y pense quand il y a des concerts, par exemple. Mmh. Bon ben là, on voit des têtes. Hein. Il y a des têtes, des humeurs, des odeurs aussi, il faut le dire. Ben oui. Et donc là, vos chansons, par exemple, enfin, c'est, se multiplie, c'est comme si c'est mes chansons. Une chanson se multiplie par autant de gens. Enfin, il y a une multiplication qui est extraordinaire et qui vous échappe complètement. Ça vous échappe.
Et quel est le plaisir d'une petite salle ou d'une grande salle pour quand on est sur scène ?
Je ne pourrais pas dire vraiment. Là, moi, je pourrais pas dire ça de différence. Chaque concert est vraiment trop différent.
Il n'y a pas des salles de prédilection ?
Il n'y a pas de règles, non.
Il n'y a pas de...
Non, j'ai rien. Je pourrais tirer aucune conclusion de
non.
Tous ces concerts que j'ai faits, non. Non. Je ne suis pas fou des grands festivals. On a fait c'est pas quelque chose dont je raffole, parce que vous avez maintenant le problème, c'est la sécurité. Donc, vous avez des gens qui sont parfois 10 000, hein, mais alors à 20 mètres de vous, derrière des barrières. Alors, parce qu'il y a toute une fosse de sécurité maintenant. Et là, j'avoue que la vision d'une humanité comme ça, parquée derrière des barrières, bon, je ne trouve pas ça très sexy, quoi. Donc, à votre question, quand même, je répondrai quand même les petites salles.
Alors, je reviens au disque. Vous disiez à chaque disque sa méthode, Philippe Catherine. Mais comment est-ce que vous savez que le travail est fait, que l'album est prêt, qu'il ne faut plus y toucher, il ne faut plus toucher aux arrangements, à la production, à quoi que ce soit ?
Oui, c'est vrai que ça, c'est de savoir finir. Alors, moi, j'ai une personnalité comme ça, j'ai toujours su finir les choses. Même j'ai même fini souvent avant de commencer. Ça m'est arrivé bien souvent. Donc je sais pas, ça se sent instinctivement qu'on n'a plus rien à dire à ce moment-là, que tout est sorti. Vous savez, c'est comme un bouton. Moi, j'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais ado. Et vous savez très bien quand tout est sorti. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais.
On voit bien depuis le début de cette masterclass, Philippe Catherine, combien l'organique est important chez vous. On peut tout rapporter au corps, plus sérieusement.
Ah oui ? Oui, oui. Non, mais c'est vrai, je parle beaucoup de ça, mais c'est vrai que, bon, pour moi, d'ailleurs pour tout le monde, il me semble que tout est ingestion et comment ça ressort, c'est ça l'important. On ingère et on fait ressortir. Hein.
Alors pour celles et ceux qui ont vu votre long métrage Peau de cochon, il y a une collection qui existait à l'époque, je ne sais pas si elle existe toujours.
Connexion ?
Une collection.
Pardon.
Une collection.
Une collection des troncs, vous voulez dire ?
Oui. Oui. Que vous conserviez dans les bocaux.
Oui, j'ai fait ça.
C'est fini ce temps-là ?
C'est fini parce que ça me posait pas mal de problèmes.
D'intendance ?
D'intendance. Oui. Et c'est vrai que les étrons m'ont fasciné à un moment dans ma vie, oui. Continue d'ailleurs. Je sais pas qui disait, je crois que c'est Queneau qui disait, on peut pas faire confiance à un type qui regarde pas ce qu'il a fait à la salle, aux toilettes. Il y a des gens qui tirent la chasse d'eau sans même regarder. Ça les dégoûte, ou je sais pas. Ils tirent, ils veulent pas voir. Moi, je pense qu'au contraire, c'est là que ça se passe, et que votre état du moment, c'est ce que vous trouvez au fond des toilettes. Hein. Il n'y a pas de secret. D'ailleurs, vous connaissez bien cette expression qu'on utilise tous les jours. Bonjour, monsieur Laporte, comment ça va ? Bon, ben, vous connaissez l'origine de cette question. Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va à la selle ? Comment ça fait aller ? C'est la question première de notre existence. Comment ça fait aller ? Comment ça s'est passé ce matin aux toilettes, monsieur Laporte ? Et selon ce que vous me répondez, eh bien, c'est votre état actuel. Bon, sans parler des nourrissons, le nourrisson, c'est déjà le premier truc. Hein. Là, on parlait de chanter, de dessiner, mais bien avant, il y a quand même l'ingestion et comment ça digère et ça ressort.
L'organique peau de cochon aussi, il y a quand même une explication très simple à ce titre du film, qui est une explication autobiographique. Philippe Catherine,
oui.
Vous avez en vous de la peau de cochon ?
J'ai de la peau de cochon, oui.
Je vous laisse ouvrir votre bouteille quand même. C'est un exercice difficile avec ces nouveaux bouchons.
Oui, c'est vrai.
Oui, je l'ouvre.
Oh, bah non, mais je suis gêné. Ah, voilà.
Ça y est.
C'est n'importe quoi comment ils font maintenant.
Les nouveaux bouchons de bouteille d'eau, oui. Question d'économie, je pense.
Ouais.
Un peu de peau de cochon.
Bah, peau de cochon. Oui, non, mais je me suis fait opérer quand j'avais 8 ans. Je pourrais en parler des heures, hein. Il faudra m'arrêter, mais enfin.
Vous arrêterez. Au bout de 6 ou 7 heures.
Je me suis opéré en 76. J'avais un trou dans le cœur. Un trou dans le cœur, quand même. Hein. Une pièce de 5 francs, c'est ce qu'ils me disaient. Bon, ben, ils m'ont opéré à cœur ouvert. C'était quasiment expérimental à l'époque. Et ils ont rebouché le truc avec une peau de cochon. Que j'ai jamais connue. Mais à qui je dois la vie aujourd'hui.
Vous l'avez su tout de suite, on vous l'a expliqué quand vous étiez enfant, cette histoire-là, cette opération-là, vous l'avez compris ? Vous compreniez ce qui se passait ?
Ah, je comprenais que j'allais mourir, ça c'est sûr. Ah oui. Ouais. Mais ça me... Mais j'étais dans une période, j'avais 8 ans, mais enfin j'étais quand même très imprégné de Jésus et tout ça. Donc, je faisais passer ça par un truc de martyr, ça m'allait très bien. De saint, aussi. Alors, j'étais loin à l'époque.
Oui, mais ça change une vie ou ça dessine une vie de vivre
bah oui,
saint.
Parce que. C'est-à-dire que mon cœur s'est arrêté pendant 17 minutes, relayé par une machine. Donc aujourd'hui, ça change une vie dans la mesure où, sauf aujourd'hui d'ailleurs, j'ai toujours 17 minutes de retard à mes rendez-vous. Eh oui. Mes proches le savent. Hein. Et des fois, j'ai parfois aussi 17 minutes d'avance. Dans des moments de grande. Où ça va bien. Quand ça va. Donc, et puis, bien sûr, le fait d'avoir été mort quelque part, et d'avoir. De revivre, parce que c'est une sorte de résurrection. Bon. Entre guillemets, mais évidemment, ça vous apporte une forme de. Pas de sagesse, mais enfin. Ça vous fait rire, quoi, la vie, après. C'est un jeu.
Mais du coup, il y a une question qu'on pose normalement à la fin des masterclass, mais c'est le bon moment pour vous, Philippe Catherine. D'ailleurs, j'ai lu qu'un collectif avait demandé à la municipalité de Thouars de nommer un giratoire Philippe Catherine.
Oui.
La question, c'est. La postérité, ça vous importe ?
Moi, si la postérité, c'est donner mon nom à un rond-point...
C'est pas mal, hein ?
Je veux dire, j'aurais pas rêvé mieux. Un rond-point, d'abord, vous avez beaucoup de ronds-points autour des villes, vous l'avez remarqué, de plus en plus, parce que ça permet aux voitures de ralentir, moins d'accidents, déjà... préserver des vies. Et puis, le rond-point a ceci d'extraordinaire, c'est qu'on peut en faire le tour en répétition, comme une boucle. Donc ça, c'est... Et puis, à un moment donné, vous êtes obligé de choisir votre direction, bien sûr. Et vous êtes libre de choisir celle qui vous plaît. Souvent, il y a même 5 ou 6 directions autour d'un rond-point. Donc, oui, pour moi, ce serait... Ouais, je pourrais mourir tranquille, ouais.
Et laisser des disques, laisser des films, laisser des livres, ça vous importe ?
J'y pense pas. Non, j'y pense pas. Ben, c'est le moment qui compte, moi, pour moi. C'est le moment.
Vous regardez pas en arrière ? Vous réécoutez pas les disques ? Vous lisez pas les livres ? Vous revoyez pas les films ?
Oh non. Non. Ça m'arrive. Des fois, quand il faut réécouter une chanson pour la reprendre en concert, des choses comme ça. Mais souvent, c'est la catastrophe, hein, pour moi. C'est beaucoup de regrets. Donc, je préfère ne pas... regarder dans le rétro.
Et vous aimeriez parfois reprendre des œuvres existantes, comme l'histoire qui veut que Monet aille au fil dans les tableaux accrochés dans les musées,
oui.
En douce.
Mm-hmm.
Vous aimeriez, vous, des fois, reprendre une chanson ou un disque pour le réarranger, le refaire ?
Ouais, dans l'absolu, oui, mais bon, il n'y a que 24 heures dans une journée. Hein, donc, on n'a pas le temps de.
Donc, plutôt regarder devant.
Ouais, oui, oui, oui. Mais bien sûr que j'aimerais retoucher les choses comme ça, mais ce serait vain, et puis vraiment, il y a d'autres urgences que ça. Et puis c'est aussi la photographie d'un moment qu'il faut aussi respecter. C'est une photographie, un disque ou quelque chose, un dessin, c'est ce que vous avez fait à ce moment-là. Bon, avec tout ce que vous avez laissé de côté à ce moment-là, il faut l'accepter.
Oui, parce que... Quand on est musicien, il y a souvent ce moment où on sort les coffrets, remasterisés, etc. C'est une entreprise qui vous intéresse pas plus que ça, vous ?
Si, ça me passionnerait de le faire. Mais bon, pour l'instant, ça s'est pas trouvé. Et puis, de toute façon, je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse. Moi, je suis à fond, là, sur autre chose. Sur les supporters belges, là.
De présent.
Je suis présent, ouais. Je suis chaud, là. Moi, bon, j'ai pas réécouté encore hein, ce que j'ai fait l'autre jour, la nuit dernière, avec les supporters. Voilà, mais j'ai un bon souvenir. Hein.
Bon, on verra ça. Mais vous parlez de...
ou jamais, je sais pas.
Vous parlez de faire peut-être par quelqu'un d'autre. Vous parlez tout à l'heure de l'importance de Gégé Imbert sur le film, sur le disque, un film. Justement, Philippe Catherine, les regards extérieurs ou les collaborations, ça a quelle importance pour vous ? Ça arrive à quel moment dans un projet ? Est-ce qu'il y a des gens à qui il faut faire écouter d'abord ou lire d'abord ?
Souvent, c'est des gens qui sont aussi dans la maisonnée, donc qui doivent subir aussi ce qu'ils entendent. Hein, donc, c'est des gens qui sont là. Hein. Là, je parle de ma famille. Donc, évidemment, c'est les premiers qui écoutent. Hein. Et parfois, ils subissent, parce que c'est pas toujours très heureux. Hein. Et puis, non, mais après, ça reste surtout un truc de solitude, quand on écrit des chansons. Et le plaisir après, le grand plaisir, parce que sinon ça sent trop la vieille chaussette, c'est d'ouvrir les fenêtres. Et donc, de téléphoner à des gens, « Ah, viens, on va faire de la musique ensemble. » Là, c'est travailler avec soit une équipe, ça peut être un groupe qu'on constitue, ou alors des gens qui travaillent dans les studios. Et là, c'est un bonheur fou parce que vous partagez quelque chose et ça libère ce que vous avez fait, qui peut être un peu, qui prend pas toujours sa forme immédiate. Hein, donc c'est dans la collaboration que ça se passe. Et moi, j'adore ça.
Le studio, c'est un espace de recherche encore, ou est-ce qu'il faut arriver quand même, parce que ça coûte cher, de mobiliser des gens, des équipes, est-ce qu'il faut arriver avec quand même beaucoup d'idées déjà à peu près certaines, ou est-ce que vous vous laissez le luxe de chercher beaucoup ?
Alors, en studio, j'ai souvent quand même ma chanson, mais le studio, c'est vraiment pour moi l'endroit privilégié. C'est ce que je préfère. Alors, parce que tout, il y a une infinie de possibilités, des gens passent. C'est vraiment des moments pour moi qui sont exquis parce que ça pour vous remettre la chanson à l'envers. Enfin, il y a quelque chose de, il y a un non-respect aussi qui peut être salutaire aussi pour les chansons. Et c'est des moments que que j'adore ça, parce que... Et puis il y a une question, comme un réalisateur appelle, fait son casting, si vous voulez. Quand on a une chanson, on essaye de lui donner ce qu'il y a de mieux. Donc vous appelez telle ou telle personne, ce qui vous donne bien sûr un sentiment d'importance. Et puis quand vous voyez que les choses se passent comme vous ne l'attendiez pas, c'est-à-dire bien, eh bien, vous vous jetez dans les bras les uns les autres. Et c'est quelque chose vraiment d'incomparable, ça.
On vous a souvent appelé aussi, vous, Philippe Catherine, à venir sur des albums d'autres. Vous aimez ça aussi, arriver pour amener votre touche?
Mais des fois, on me demande de chanter des choses. Ça m'arrive, mais c'est pas pareil. Hein. C'est plus... Vous êtes... Si, vous êtes aussi quand même dans la recherche, mais vous êtes comme un musicien qu'on appelle, donc c'est différent. Hein, c'est
un interprète davantage.
Un interprète, oui. J'ai la chance aussi parfois qu'on m'appelle. Je joue du saxophone un petit peu depuis 3 ans. J'ai fait quelques sessions.
Pas facile.
Ben, pas facile. Ça dépend comment on en joue. Moi, je trouve ça hyper facile. Ben, non, mais c'est. Alors, pour ceux qui veulent jouer d'un instrument avant, refuser de souffler dans une trompette, c'est désespérant parce que vous n'avez pas de son, c'est terrible. Alors que le saxophone, vous soufflez dedans, vous avez tout de suite un son. Donc vous pouvez vous amuser en improvisant, c'est quelque chose d'extraordinaire ça. C'est un instrument là-dessus très démocratique. Donc j'en jouis, j'en ai peut-être joué 2 heures dans ma vie. Mais alors vraiment, avec quel plaisir.
Être comédien, Philippe Catherine, ça vous apporte quoi dans votre expression, dans votre créativité? Qu'est-ce que ça a ouvert comme porte?
Alors, monsieur Laporte, je vous dirais que, justement, ça m'ouvre la porte. La porte est ouverte. Parce que je suis quelqu'un de plutôt timide et réservé. Et le fait de vous retrouver dans une équipe de cinéma, ça me permet de sortir de mon coin et de me réinsérer dans une société. Sinon, je peux vite devenir un ours mal léché. Donc, le fait de se retrouver en équipe, il y a parfois 50 personnes sur un tournage. Vous avez plein de nouveaux visages, des nouveaux sons de voix. C'est comme prendre un acide. Vous êtes complètement... Enfin, c'est un trip.
Stimulé de tous côtés.
Ah ouais, c'est une sensation extraordinaire que j'avais pas trop connue. Moi, quand on quitte la fac ou quand on a ça, hein, parce que chaque rentrée, il y a des nouvelles personnes hein, dans l'amphi et tout ça. Mais quand on est après dans le monde du travail, plutôt dans un bureau à 2 ou 3, puis en musique, alors dans un film, vous retrouvez cette idée de toutes ces personnalités, toutes ces histoires qui sont là devant vous et vous avez un rôle à jouer, hein, en l'occurrence, et je pense que pour moi c'est très bon, parce que ça m'oblige à sortir de ma coquille et puis de trouver ma place.
Mais est-ce qu'il y a un type de metteur en scène avec qui les choses se passent mieux pour vous? Est-ce que vous savez comment vous aimez être dirigé sur un plateau? Ce qui vous convient?
Ce qui me convient, ce que je dirais là, à vue de nez, c'est que quand on n'en parle pas.
Il suffit de lire le script,
Apprendre
son texte, et vous devez avoir vous-même l'intelligence de la situation parce que c'est écrit.
Oui, puis c'est sûr. Moi, ce que je fais, c'est que j'apprends mon texte par cœur. C'est vachement important, et je peux le dire très très vite, très très vite. Et puis alors quand je suis sur place, c'est toute l'équipe, ça se dit après sur le moment, quoi, sans que je me pose de questions, sans qu'on parle de psychologie ou choses comme ça. Pour l'instant, j'ai eu la chance de tomber sur ce genre de réalisatrice et réalisateur.
Pourtant très différent.
Pourtant très différent.
Ouais. Je parlais d'Eric et Ramzy, je parlais de Claire Denis. Le petit Spirou, c'est pas le même cinéma, tout ça. Mais il y a toujours une. C'est ça qui est intéressant et, enfin, pour moi, je trouve réjouissant, c'est que vous amenez toujours une, c'est un peu banal, mais enfin, de le dire comme ça, une singularité, une originalité. Vous dites que le cinéma vous permet de vous insérer dans un collectif, sauf que vous êtes toujours très, un personnage très particulier sur l'écran.
Oh, mais ça, c'est vous qui le dites, mais je ne pourrais pas...
Vous ne le voyez pas, ça ?
Non. Non. Non, vraiment pas. Je vois pas du tout. Pour moi, je suis vraiment d'une normalité confondante.
Ouais. Je vous laisse à cette idée. Alors peut-être, je ne ferai pas non plus que cette masterclass vous trouble davantage. Mais
non, peut-être. Mais le petit Spirou, par exemple, ce qui était génial pour moi, enfin, je tournais avec les enfants, ça c'était super, on faisait des dessins, et tout ça c'était bien. Et puis il m'avait collé des grandes oreilles. Alors là, vraiment un bonheur fou, hein, d'avoir des grandes oreilles. Je me regardais dans la glace, je me préférais comme ça, par exemple. Et puis alors, on me disait, je demandais, je peux, à la fin du boulot, garder mes oreilles. Il dit, ah bah oui, si tu veux. Alors je gardais mes oreilles le soir, j'avais vraiment, c'était grande. Et les femmes âgées me disaient, oh, qu'il est charmant, Alors qu'elles me disent pas ça d'habitude. Qu'est-ce qu'il est charmant avec ses oreilles. Après, je suis allé à la piscine avec mes enfants et avec mes grandes oreilles. Et donc, j'ai plongé dans le bassin et avec mes grandes oreilles. Et à l'impact de l'eau, mes oreilles ont explosé quelque part. Elles se sont retrouvées donc au fond du bassin. Un type en maillot de bain a vu la scène et puis il a plongé pour aller chercher mes oreilles. Il est ressorti comme ça de l'eau et il avait une oreille dans chaque main. Il m'a regardé, monsieur, vos oreilles, vous avez oublié vos oreilles. Voilà ce que provoque pour moi le cinéma, c'est-à-dire des situations inédites, absurdes, qui relancent la vie. Hein. Bon, après, je me suis dit, est-ce que je me fais opérer pour avoir des grandes oreilles? J'ai quand même consulté un médecin qui m'a dit « Attention, monsieur, parce que ça vous... il paraît que ça fait mal, après, quand on les a. C'est lourd. » Mais je vous assure, je suis mieux comme ça, avec des grandes oreilles.
Je vous crois sur parole. Voilà, ça relance, dites-vous, Philippe Catherine, mais justement, est-ce que vous avez l'impression, je reviens à des questions qui sont récurrentes dans ces masterclass de France Culture, est-ce que vous avez l'impression de progresser? Alors dans vos arts, je ne peux pas dire dans votre art, s'agissant de vous, puisqu'il y a la musique, il y a le cinéma, il y a la comédie, le dessin, est-ce que vous avez le sentiment d'une progression? Est-ce que vous faites les choses mieux?
Hélas, oui. Oui, parce
que... Alors il faut expliquer le hélas.
Hélas, parce que souvent c'est l'artisanat qui prend... on sent qu'on progresse dans le fait d'être un artisan. Pas forcément d'être un artiste, mais un artisan qui sait mieux faire les choses, qui sait comment s'y prendre, qui parfois même utilise une méthode. Et quand je constate cela, eh bien, je suis triste. Parce que je ne fais pas ça, moi, pour être un artisan. Je veux réinventer à chaque fois, je vais être surpris à chaque fois. Et quand je constate ça, que je progresse, eh bien c'est souvent sur ce point, hélas. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mmh. Mais c'est pour ça que vous préférez être touriste, parce que voilà. Quand même revenir, ça...
C'est pour ça que j'essaie de changer d'outils, ouais. Les gens avec qui je travaille et tout ça, pour renouveler à chaque fois. Il faut que ça soit une aventure à chaque fois.
Mais l'aventure a à chaque fois un but différent ?
Mais il n'y a pas de but. Hein. Si ce n'est celui de crever l'abcès.
Non, reviens au corps. Mais qu'est-ce qui vous est le plus difficile, alors ?
Plus difficile, vous voulez dire...
Dans difficile. La création, difficile.
Oh ben, y a des moments, comme je vous l'ai dit, des moments où on se sent tellement... on n'exprime pas ce qu'on... Ce qui, pour moi, hein, personnellement, c'est quand je me sens pas concerné. Voilà, exactement. Ça m'arrive. Ouais. De pas me sentir concerné, ça m'arrive. Sur scène aussi, ça peut arriver, ça. Ça pose quand même des problèmes. Là, c'est difficile. Mmh. de le constater aussi.
Mais vous l'expliquez comment, quand c'est sur scène? Parce que bon, quand vous jouez dans un film, vous pouvez tout d'un coup ne pas être vraiment concerné par le projet du film, mais quand il s'agit de votre univers, de vos chansons, de votre musique...
Ben, je sais pas, parce que quand on parlait de mon opération du cœur tout à l'heure, donc ce qui m'a donné un peu de distance à la vie aussi, le fait d'être récupéré comme ça, alors ce qui vous donne un peu de distance, ce qui fait que souvent, les émotions peuvent s'éloigner, ce qui me rend beaucoup de service. Par exemple, j'ai pas du tout de trac. Je connais pas. Donc, c'est bien. Hein, de ne pas avoir le trac, parce que vous êtes cool et tout ça. Mais par contre, par moment, vous n'êtes pas du tout concerné par ce qui se passe. Il y a quand même un double tranchant.
Ouais.
Donc voilà ma situation, docteur.
Pas facile.
Hein. Ah, pas facile, ça va, hein, je me plains pas. Non, ça va. Mais...
Est-ce que vous êtes concerné par les critiques sur votre travail?
Oui, bien sûr.
Comment est-ce que vous regardez ça? Comment est-ce que vous recevez les critiques?
Je suis très attiré, je l'ai observé, par des gens qui disent du mal de moi. Je me souviens que je faisais une émission, ben on en parlait, Ruquier, donc il y avait Zemmour et Nolo. Et Zemmour, vraiment, était très, très... Enfin, il était contre. Hein. Bon, ben c'est celui qui m'attirait, parce qu'il était... J'étais attiré par lui. Comme ça, mais sinon, ça c'est comme ça que je suis. J'en suis attiré par ça. Mais sinon, j'ai de la chance quand même des fois de lire des choses que j'avais pas du tout envisagées. Alors ça, je me dis, ah, voilà quelqu'un qui a compris que c'est un art de savoir lire l'art. Enfin, il y a des gens qui font de cela un art. Ils sont rares quand même, hein. Mais ça existe. Hein.
Mais les critiques sur votre travail d'auteur, compositeur, interprète, et les critiques sur votre travail de comédien, vous les recevez différemment?
Oui, je suppose que oui, parce que quand on est acteur, on n'est pas tout à fait responsable du résultat final, il faut bien le dire, même complètement. On est complètement extérieur. Hein. Au film, une fois qu'on en est sorti. Donc c'est différent, alors que quand on est chanson, c'est quand même, quelque part, vous qui en êtes responsable de A jusqu'à Z. Donc vous êtes plus concerné, là, du coup. Ouais.
Et est-ce que vous êtes sensible, Philippe Catherine, aux prix, aux récompenses?
J'ai eu une récompense, je crois que c'est tout, hein. Une récompense de la ville de Luçon, en Vendée. Oui. Madame Retailleau qui est venue sur scène et qui m'a offert la médaille de la ville de Luçon sur scène. C'était à la dernière tournée. C'est le seul prix que j'ai eu.
Prophète en son pays.
Comme quoi.
Mais vous avez des nominations, victoire de la musique, des choses comme ça. Si. vous en souvenez pas. Donc vous n'avez pas le regret de ne pas avoir reçu de victoire de la musique, de César.
Oh non, vraiment pas, c'est pas du tout mon affaire. Non. Déjà à l'école, vraiment, j'étais pas du tout. J'ai eu mon bachot, mais vraiment piteusement, hein, je dirais. C'est pas du tout mon truc, les médailles. Bon, si on m'en donne une, je suis très. À Luçon, j'étais super content. J'étais vachement content. Si on m'en donne une, je suis pas du genre. Mais c'est une fois quand même la Légion d'honneur. On m'a. Pas la Légion d'honneur, mais. Des trucs de
arts et lettres.
Mais j'y suis pas allé. Parce que j'avais rendez-vous chez le dermato. J'ai pas pu y aller.
La peau, encore.
La peau.
On n'a pas parlé des autres, Philippe Catherine. Parce que je pense Pour la peau, ça c'est une chanson de Dominica, votre vieux complice. Ça vous intéresse d'écouter les autres, de voir les autres? Ça vous nourrit aussi? Les autres.
Alors là, vous voulez dire en art?
En art.
Alors, oui, je suis très, très...
Vous écoutez beaucoup de musique, regardez beaucoup de films.
Énormément, oui. Je lis beaucoup, pas forcément des bouquins d'ailleurs, ou des journaux, mais non, je m'imprègne énormément. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah là, en ce moment, ça peut être... je me suis pas lassé, par exemple, du dernier disque de Kendrick Lamar. Vraiment, un bijou. Ah, j'ai passé mon été là-dessus. Et puis, beaucoup de musique ethnique aussi, de chants traditionnels, de Bora Bora, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller dans des chants traditionnels en ce moment. Je suis très curieux de ça.
Et vous savez comment ça peut infuser dans votre propre création ? Ce que vous écoutez ? Ce que vous aimez ?
Je sens bien que, par exemple, quand je faisais le film, donc le disque dont vous avez parlé avec le piano, là, ce que j'écoutais, c'était beaucoup de musique du début 20e, donc Debussy, tout ça. Et puis alors en peinture, par exemple, je ne pensais qu'à Van Gogh. J'étais complètement là-dedans. Donc bon, après, je me suis pas trop. Voilà, je baignais là-dedans à ce moment-là. Là, je baigne dans Kendrick Lamar et
Bora Bora.
Et Bora Bora. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? J'en sais rien. Mais enfin, il se trouve que la situation est différente pour moi qu'il y a 3 ans, quoi.
Et là, il y a aussi de la peinture ou de la photo, enfin quelque chose du domaine des arts plastiques qui vous nourrit particulièrement en ce moment ?
En ce moment ? Non. Il y a un film, par exemple, L'Atelier. J'ai vu L'Atelier de Cantet. Et ça m'a impressionné. Et le travail de Dumont, par exemple, au cinéma, me passionne. Parce que...
Vous avez vu Jeannette ?
J'ai vu Jeannette, que j'ai adoré. Et parce que c'est bouleversant, Dumont, parce que... C'est quelqu'un. J'avais beaucoup aimé La Vie de Jésus au début, puis c'est bouleversant parce que c'est comme s'il avait vu la lumière au bout d'un moment avec le petit Quinquin. Mmh. On parlait de Van Gogh tout à l'heure. Tout d'un coup, c'est comme si il était allé à Arles, quoi. Il a vu une lumière différente qui était en lui pourtant et qui laisse exprimer comme ça aujourd'hui impunément. Mmh. Et c'est des films qui sont, bah alors, on ne pouvait pas imaginer que ça aurait pu exister un jour, ce genre de film. Comme la musique de Kendrick Lamar, ou de PNL, on ne pouvait pas imaginer qu'une musique pouvait cette musique-là pouvait exister un jour. Alors, ça c'est extraordinaire à ressentir quand on est contemporain de ces gens-là.
Et du coup, peut-être pour boucler cette conversation, Philippe Catherine, vous cherchez toujours cette nouvelle lumière. Vous avez toujours envie d'aller, le touriste que vous êtes, d'aller chercher une nouvelle lumière pour aborder une nouvelle étape de votre travail créatif.
Ouais, j'essaye de réorienter la lumière différemment. Je n'ai peut-être pas 36 des lumières, mais je la réoriente, en tout cas. C'est déjà pas mal.
Merci. Philippe Catherine.
Merci. Merci à vous.
C'était la masterclass de Philippe Catherine avec Arnaud Laporte. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Djergaillan.